On a vu la semaine passée qu'après que le peuple d'Israël ait fait alliance avec Dieu, Dieu a établi son alliance avec son peuple, il lui a donné sa loi, les instructions. Ils l'ont rejeté effrontément en construisant un veau d'or, en l'adorant, s'agenouillant devant lui, allant même jusqu'à nommer ce veau-là l'Éternel qui les avait libérés d'Égypte. Et la colère de Dieu s'est enflammée et Dieu a considéré qu'ils avaient brisé l'alliance et que lui-même était séparé d'eux. Mais grâce aux prières de Moïse, Dieu n'a pas détruit le peuple. Il aurait pu les faire brûler sur le champ. Mais Moïse a intercédé, un peu comme on vient de lire, Moïse est avancé, non pas dans le trône céleste, mais il a joué un peu le rôle de ce que Jésus joue aujourd'hui. Et il a plaidé pour le peuple et Dieu est revenu sur sa décision de détruire le peuple. Mais il y a quand même 3000 personnes, 3000 hommes qui sont morts ce jour-là. Ça a touché le cœur du peuple, ça a touché aussi le cœur du peuple, mais où ils ont été affligés de deuil en voyant que Dieu a annoncé qu'il ne marcherait plus avec eux. C'était fini. Dieu, pourtant, était censé être à leur tête pour les mener comme un berger qui guide son troupeau jusque dans la terre promise. Il a dit, non, je vais envoyer mon ange, je ne marcherai plus avec eux. Même, c'était un signe fort, un peu comme une claque au visage, mais Moïse a établi une tente pour la rencontre avec Dieu à l'extérieur du camp. Pourtant, Dieu avait annoncé qu'il allait habiter au milieu d'eux. Vraiment, il montrait qu'il y avait une coupure. Mais le peuple s'est humilié devant Dieu. Ils étaient en deuil. Ils se sont vraiment humiliés. Et Dieu a vu qu'ils avouaient, en fait, qu'ils avaient péché. Il a vu leur cœur. Moïse aussi a continué son intercession en déclarant que c'était impensable pour eux de marcher sans que l'Éternel soit à leur tête. Ils disaient, on ne partira pas si tu n'es pas à notre tête. On ne peut pas, là. Et Dieu, finalement, est revenu sur sa décision. Il s'est réconcilié avec Israël. Il l'a déclaré, « Je vais marcher avec eux. » Il a entendu la prière de Moïse. Il a vu l'humiliation de son peuple. Il a accepté qu'à nouveau, le peuple d'Israël soit un peuple distinct de toutes les nations sur la terre dans le fait que Dieu marche avec eux. C'était un grand honneur pour eux. Mais Dieu le déclare, s'il accepte de se réconcilier, c'est parce que Moïse a trouvé grâce à ses yeux. Il a obtenu sa faveur. Moïse est resté fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à son peuple même, quand tout le peuple était rebelle. Le seul qui parlait avec Dieu face à face, Dieu lui parlait comme à un ami. Et voyant que Dieu lui est favorable, il va à nouveau habiter parmi eux, qu'il va les diriger. Et même Dieu lui rappelle qu'il a sa faveur. Mais Moïse pousse l'audace jusqu'à demander à Dieu, « Je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Pour Moïse, on comprend que c'est ce qu'il avait le plus à cœur à ce moment-là. Il a compris à quel point Dieu était un Dieu bon, qu'il pardonnait, qu'il s'était réconcilié avec le peuple. Combien Dieu est bon et plein de grâce, on l'a chanté ce matin. Et ça a touché le cœur de Moïse qui dit, « Je veux te voir. » Il avait déjà eu à de nombreuses reprises une occasion de voir un aperçu de la gloire de Dieu, mais il voulait le voir. Et voyons quelle est la réponse de Dieu, un passage plusieurs d'entre nous connaissons, mais ça vaut la peine de s'y attarder. Exode chapitre 33, verset 18 jusqu'à 34, 9. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je passerai devant ta face. Je ferai passer devant ta face toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai compassion de qui j'ai compassion. » Et il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras là sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » L'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bon matin et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, qu'on ne voit personne sur toute la montagne, et même que ni petit ni gros bétail ne pèse aux environs de cette montagne. Et Moïse tailla deux tables de pierre, comme les premières. Moïse se leva de bon matin et il monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel lui avait commandé. Et il prit les tables à la main, les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là auprès de lui, et il proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Et il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Mais tu pardonneras notre faute et notre péché, tu nous prendras pour héritage. » Amen. Je vois ici dans ce passage-là, une des déclarations théologiques les plus importantes de toute la Bible, sinon la plus importante. C'est Dieu qui se présente à l'être humain, à l'humanité, dans ses paroles. Et on l'a chanté ce matin, on le répète souvent, même cette déclaration de Dieu revient dans toute la Bible, que Dieu est lent à la colère, compatissant, qu'il fait miséricorde, qu'il est patient, plein de bonté. Mais c'est ici, de la bouche même de Dieu, que c'est sorti cette déclaration-là. Quand on médite sur cela, c'est vraiment touchant. Le Dieu que nous avons, il serait en droit d'être un Dieu de terreur, un dictateur. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais ici, il dévoile sa vraie nature, son cœur. Il est un Dieu d'amour. Et comme on va le voir, un Dieu juste aussi. Mais il déclare qui il est, sa nature même, comment il veut être connu par l'homme, par son peuple, donc par nous. Le passage commence par l'exclamation de Moïse, « Fais-moi voir ta gloire. » Pourtant, comme on l'a vu même ailleurs dans Exode, la gloire de Dieu a été manifestée à plusieurs reprises, dans la nuée, dans le feu aussi. Même sur la montagne et tout, le peuple a vu une manifestation avec les éclairs, le tonnerre, le tremblement de terre. On savait que Dieu était là. Mais Moïse voulait encore plus que cela. Il voulait voir comme la face de Dieu même. Pas seulement une manifestation indirecte de la présence de Dieu, mais c'était son vœu le plus cher d'être dans la présence de Dieu, de voir sa face. Comme on chantait ce matin, « Je verrai ta face ». Tout un privilège, l'espérance que nous avons. Donc, il voulait voir Dieu lui-même. Mais Dieu lui répond qu'il ne pourra pas voir sa face parce que l'homme ne peut le voir et vivre. La gloire de Dieu est si éclatante. C'est souvent comparé à une lumière tellement éclatante que ça brûle tout être qui n'est pas céleste à son contact. Tout être mortel ne peut pas être dans la présence même de Dieu, dans la lumière, sans quoi il se désintègre. Et si la gloire de Dieu apparaît dans une nuée, derrière un voile, à l'intérieur du temple, c'est justement parce que Dieu mène une protection. Il nous protège, en fait. Il protégeait son peuple de la gloire qui les aurait détruits. Dans 1 Timothée 6, 16, nous lisons que les êtres qui sont dans les lieux célestes et qui sont dans la présence de Dieu, donc les anges et les êtres célestes, en fait, ils habitent une lumière qui nous est inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Là, on peut se poser la question, comment ça se fait que Dieu déclare qu'il parlait à Moïse face à face? C'est une bonne question. Plusieurs sont venus à la conclusion que ça devait être une préincarnation de Christ qui était devant Moïse et qui parlait, comme le Fils de Dieu qui est venu avant de naître sous la forme d'un bébé. C'est possible, mais je vois plutôt que c'est simplement que Dieu dit la manière dont il parle avec Moïse. Il lui parle comme un échange de vive voix, pas par un message texte ou une vidéoconférence, mais comme s'il était en personne, il lui parle, il échange avec lui, il entend ce que Moïse dit, il lui répond, de vive voix. Je ne crois parce que selon le texte, on est forcé de comprendre que Moïse, même lorsqu'il parlait face à face avec Dieu, ne voyait pas la face de Dieu. Sinon, il serait mort. Mais c'est qu'il avait une conversation de vive voix avec Dieu. Mais c'est déjà extraordinaire. Ça, c'est le seul homme qui a existé, le seul prophète à qui Dieu s'adressait de vive voix. Mais pourquoi Moïse dit donc qu'il veut voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que la gloire? Le mot « gloire » dans la Bible est utilisé dans beaucoup de sens, mais c'est souvent dans le sens de l'abondance. Quelque chose qui est glorieux, c'est quelque chose qui est abondant. Les richesses, un peu comme quand Joseph il parle à ses frères, alors qu'il avait été élevé comme presque le vice-président de l'Égypte, juste sous Pharaon. Dans Genèse 45, il dit « Vous décrirez à mon père toute ma gloire en Égypte, tout ce que vous avez vu. » Donc, la gloire inclut la puissance, la richesse, les possessions, mais aussi la renommée, la splendeur, l'honneur. Comme le règne de David est un règne glorieux. On lit dans 1 Chronique 29, 28, « Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. » On comprend aussi de renommée. Et sa renommée, là, a continué avec son fils Salomon, même elle s'est accrue. On pense aussi à la gloire de l'Éternel qui se manifeste dans le temple ou dans le tabernacle, qui remplit le temple et au point où les hommes ne peuvent pas y pénétrer quand la gloire de l'Éternel est là. Mais le mot « gloire », même s'il est utilisé parfois pour des objets, pour le temple même qui est glorieux, c'est avant tout une qualité divine, c'est une qualité de Dieu, c'est dans son être. Il est un être glorieux. Et les choses qui sont glorieuses sur la terre le sont parce qu'elles, finalement, elles appartiennent à Dieu et parce qu'elles glorifient Dieu. Les autres choses qui ont une semblance de gloire et qui ne glorifient pas Dieu, en fait, ces choses-là sont en train de voler une gloire qui appartient à Dieu. Toute gloire, finalement, revient à Dieu. C'est une qualité de Dieu. Et quand des récits de la Bible qui rapportent que la gloire de Dieu a été vue, c'est nombreux quand même ça dans les récits de l'Ancien Testament, il s'agit d'une manifestation visible de la gloire de Dieu, ou une manifestation de sa présence ou son action. La gloire de Dieu se voit, on le voit encore aujourd'hui, dans la création qu'il a faite. C'est la première manifestation qui nous saute aux yeux. Dans Psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue céleste annonce les œuvres de ses mains. » Donc, on peut voir, on a un aperçu de la gloire de Dieu en regardant ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Toute la beauté révèle la beauté de Dieu. La gloire de Dieu peut être précisément dans un lieu aussi, plus précis. Comme dans Exode 16, le peuple s'est tourné du côté du désert et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans une nuée. Là, il savait que même si la gloire de Dieu est partout et sur toute la terre, elle était dans un endroit où elle manifestait la présence de Dieu. Elle se voit dans les exploits de Dieu, dans ses œuvres. Donc, elle désigne aussi la gloire de Dieu, sa réputation, son nom, comme disait Pasteur Isaac. Le nom de l'Éternel est glorieux. Et parfois, même lorsque Dieu commande du respect pour son nom, c'est du respect pour sa gloire. Même en réponse à la demande de Moïse, « Fais-moi voir ta gloire », l'Éternel répond, « Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Donc, la gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu même. Donc, lorsque Moïse demande de voir la gloire de Dieu, c'est qu'il voulait voir Dieu, il voulait voir sa face. Et Dieu, dans sa bonté, accepte de passer devant Moïse en le protégeant avec sa main, pour ne pas qu'il meure. Et Moïse aura l'honneur de voir son dos. Moïse ne nous a pas raconté ce qu'il a vu, malheureusement. On pourra lui demander au ciel. Et en passant devant lui, Dieu déclare qui il est. Ce qui fait qu'il est un Dieu glorieux, digne d'être adoré. Et là, il ne lui parle pas de sa création. Parmi toutes les qualités glorieuses de Dieu, comme par exemple sa toute-puissance, son intelligence infinie, sa grandeur infinie, qui peut tenir tout l'univers entier dans le creux de sa main, son éternité, qui n'a pas eu de début, pas de fin. C'est vraiment glorieux, cette qualité de Dieu. Sa sainteté, même les anges louent le Seigneur pour sa sainteté. Mais ce qu'il présente à Moïse, l'aspect qu'il veut présenter comme étant glorieux, c'est sa grâce. C'est vraiment touchant. Dieu se présente comme un Dieu qui est bon envers sa créature. On l'a chanté aussi tantôt ce matin. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Donc Dieu se révèle à sa créature, à son peuple, comme un Dieu qui est bon, qui veut faire grâce, qui est compatissant. Et c'est pour cette raison-là, principalement, qu'il veut qu'on le loue et qu'on lui rende gloire. C'est un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant. Ça veut dire qu'il agit par compassion dans ses actions, par amour. Il peut accorder la faveur à quelqu'un alors qu'il ne le mérite pas. C'est ça la grâce. Une faveur imméritée. Il vient de le démontrer en se réconciliant avec Israël alors qu'il méritait au contraire d'être détruit. Et même sa grâce s'est souvent montrée comme un don qui est gratuit. Sa grâce se manifeste aussi dans le fait qu'il retient son jugement, il retient la punition qu'il pourrait infliger. Il ne punit pas comme on le mériterait. Il fait preuve de miséricorde, de compassion, de pitié. Il pardonne la faute, le crime, le péché, il dit dans 34:7. C'est ça qui fait sa gloire. Il est lent à la colère, donc il est patient. Il comprend que l'être humain, il y a une expression qui dit que l'erreur est humaine, mais je dirais plutôt que la nature de l'homme est pécheresse, et ça nous prend du temps, on a la tête dure, et alors que le texte dit que Israël est un peuple à la nuque raide, je pense qu'on l'est. Heureusement, Dieu est patient envers nous, il sait qu'il y a une croissance, qu'on progresse dans la sainteté, Dieu montre sa patience, il y a une compréhension, il sait ce que nous vivons, comment nous sommes faits. Il est riche en bienveillance, en fidélité. Il tient parole. Sa bienveillance même s'étend sur 1000 générations, qu'il dit. Ça veut dire qu'il a à cœur de bénir un homme, même plus que sa vie. On sait que la durée de la vie d'un homme, c'est court. Et Dieu veut bénir cet homme encore plus que la durée de sa vie. Donc, il veut étendre sa bénédiction sur ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Il est en train d'exprimer le souhait. Dieu déclare que par sa bonté, sa grâce, en réalité, ce qu'il voudrait, son désir, c'est de bénir son serviteur éternellement. Et là, ce qu'il dit, c'est 1000 générations. On s'entend que c'est pas mal long. Et par contraste, lorsqu'il dit qu'il va punir, il va punir seulement sur 3 ou 4 générations. C'est vraiment pour montrer le contraste. Ce qu'il désire d'abord, c'est bénir. Son cœur, profondément, ce qu'il veut, ce qu'il est, c'est un Dieu d'amour. Mais, justement, ce dernier point-là, qu'il va punir jusqu'à la 3e, 4e génération, ça peut soulever une foule de questions. On ne répondra pas à toutes ces questions-là ce matin. Mais une question qui est soulevée, c'est comment un Dieu qui dit qu'il pardonne le péché, peut dire dans le même élan qu'il punit la faute. Parce que c'est une contradiction. Dieu se présente comme le Dieu qui pardonne le péché, le crime, la faute, mais qui punit la faute des pères sur les fils, les petits-fils. Comment on comprend cela? C'est que Dieu est prêt à pardonner, en fait. Et on le voit dans toute l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'à la venue du Messie, Dieu est toujours prêt à pardonner le cœur qui se repent, le cœur qui se tourne vers lui. Dieu pardonne son crime, mais ce n'est pas automatique. En fait, l'offre est là, mais l'homme doit accepter cette offre de grâce. Et puisqu'on a un cœur rebelle de nature, on ne veut même pas rien savoir de la grâce de Dieu. On veut s'entêter par orgueil. On même incapable d'admettre qu'on a péché contre le Créateur. Mais Dieu déclare qu'il est prêt à pardonner. L'homme, mais qui doit d'abord s'humilier devant Dieu, reconnaître qu'il a péché. Donc, à l'inverse, il ne pardonne pas à celui qui refuse sa grâce. Et qui refuse le moyen que Dieu a établi pour qu'il puisse obtenir sa grâce. Pardon. Aussi, il dit qu'il pardonne, mais qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Une autre déclaration qui peut sembler contradictoire à nos petits esprits. Il pardonne la faute, le crime, le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais on comprend dans la Bible que pardonner, lorsque Dieu pardonne à son peuple, qu'il accepte de ne pas le détruire, qu'il accepte de retourner avec eux, de se réconcilier, ça ne veut pas dire qu'il considère qu'il n'y a pas eu de péché. C'est que malgré le péché, malgré que l'homme est coupable, il va agir quand même par bonté envers lui. Mais il ne fera pas comme si aucun péché n'a été commis. Il n'est pas le bon Dieu que beaucoup de Québécois disent, là, qui est bonasse et que oh, Dieu ne veut pas nous punir, le bon Dieu. Non, il déclare qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Celui qui a péché est coupable. S'il ne le détruit pas sur le champ, c'est parce qu'il manifeste de la miséricorde, de la compassion envers lui. Mais il est coupable. Et Dieu se présente comme un Dieu juste, qui applique la justice divine, un juste juge. Et un juge qui doit punir tout péché selon la justice divine, selon sa loi qu'il a établie. Et on va le voir dans les prochaines études. Dieu, même si il a donné sa loi et que le peuple est tombé, a enfreint sa loi, lorsqu'il se réconcilie avec le peuple, il ne dit pas, « Bon, c'est correct, j'ai vu que vous aviez tombé, je vais enlever quelques articles de ma loi, ça semble être trop dur pour vous. » Non, il répète les mêmes articles de loi, il répète la même loi, il va écrire les mêmes commandements sur les tables. Sa loi demeure inchangée, sa justice demeure. Donc, le fait qu'il est un Dieu compatissant n'enlève en rien le fait qu'il est un Dieu juste et qui juge et qui punit le coupable. Et ici, pour que l'Israélite soit pardonné, sa punition devra être prise en charge. Et Dieu va instaurer un système de sacrifice où un animal va devoir mourir. Et c'est comme si la faute était transférée sur cet animal-là pour lui éviter de subir la colère de Dieu. Mais c'était le moyen ordonné par Dieu. Et si un Israélite cherchait à se faire pardonner par toutes sortes d'autres moyens, ça ne fonctionnait pas. C'était le moyen d'obtenir la grâce de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Mais même s'il était pardonné, il restait quelque chose de pas réglé dans l'Ancien Testament. Il y avait comme un arrière-goût, c'est que le péché n'était pas effacé. C'est comme si ça restait une note à son dossier criminel. Oui, l'animal avait été puni à sa place, mais... Et même si Dieu accordait le pardon et continuait d'être en relation, le péché restait là. Dieu n'allait pas faire comme si le péché n'avait jamais eu lieu. Et on lit dans le Nouveau Testament, on comprend que même le sang des animaux qui a coulé n'efface pas le péché. Donc, ça appelle à une solution qui est plus grande et définitive. Donc, la difficulté demeure dans l'Ancien Testament. À même la déclaration que Dieu fait, il y a une difficulté, puis on n'arrive pas à le relier. Et les Juifs, même, qui ont plongé les regards, puis ont étudié, les Écritures n'ont pas vu la pleine solution à cela. La difficulté, c'est qu'il y a un Dieu d'amour qui veut pardonner, mais qui est en même temps un Dieu juste qui doit punir et qui ne considère pas les coupables comme innocents. Donc, ça demeure, et le mystère demeure dans l'Ancien Testament. Même si la grâce de Dieu est mentionnée partout, est très impressionnante, ça appelle à une solution qui est future. Et en fait, ceux qui avaient la foi que Dieu voulait vraiment les pardonner savaient qu'un jour Dieu allait fournir la solution. On lit dans les psaumes, qui est une louange à la gloire de Dieu pour sa grâce. Dans psaume 86, 12 à 15, « Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom toujours, car ta bienveillance est grande envers moi, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant, qui fait grâce, qui est lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Même si la solution n'est pas encore décrite, on voit la foi de David qui écrit ses vers, qui savait que Dieu allait le sauver. Et les prophètes ont annoncé qu'un jour, la gloire de Dieu allait être répandue dans les autres nations sur la terre. On lit dans plusieurs prophètes, dont Ésaïe. Les prophètes de l'Ancien Testament annoncent que la gloire de Dieu va s'étendre aux autres nations. Et comme on le disait tantôt, la gloire de Dieu, c'est d'abord pour nous sa grâce. En quoi Dieu est glorieux à nos yeux? Oui, dans toutes ses œuvres qu'il a faites, Mais la plus grande œuvre qui nous concerne, c'est qu'il nous fait grâce, il nous pardonne. Et même lorsque les prophètes annoncent que la gloire de Dieu va être connue, c'est lié au fait qu'il va faire grâce, il va pardonner. Donc, c'est lié à l'avènement du Messie, de la solution que Dieu va proposer. Dans Isaïe 66, 18-19, on lit « Le temps est venu de rassembler les nations. » Donc, on voit un temps de réconciliation, où Dieu pardonne, il fait grâce. Les nations et toutes les langues, même, elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, j'enverrai leurs rescapés vers les nations. Aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils annonceront ma gloire parmi les nations. Le message glorieux de l'Évangile. Mais cette même gloire-là, qui est liée à la grâce de Dieu, est en même temps un jugement pour les nations. Donc ça fait, ça tranche, ça vient diviser toute la population mondiale en deux camps. Ceux qui bénéficient de sa grâce par la gloire de Dieu, ou ceux qui, à cause de la même gloire de Dieu, sont sous son jugement. Ésaïe, dans le même chapitre 66, il dit « Voici l'Éternel qui arrive dans le feu, et ses chars sont comme un tourbillon pour satisfaire sa colère avec ardeur et ses menaces avec des flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son épée qu'il châtie toute chair. Nombreuses sont les victimes de l'Éternel. » Dans Habakkuk 2,14 aussi, qui est dans un passage où est-ce qu'il parle du jugement de Dieu, il dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. » On dirait que c'est comme une parenthèse positive dans un passage très négatif, mais en fait, la gloire de l'Éternel va faire en sorte de détruire les nations qui sont rebelles. La gloire de l'Éternel, comme les eaux, recouvre le fond de la mer. Et comme vous l'avez sûrement deviné, cette gloire-là annonce la solution qui est en Jésus. Jésus-Christ est le Messie annoncé. C'est la solution qui n'avait pas été présentée encore dans l'Ancien Testament. C'est la solution au mystère, au problème insolvable de la bonté de Dieu qui veut nous faire grâce, mais la justice de Dieu aussi qui doit punir le péché. Tout cela, finalement, ça vient s'accorder et ça fait du sens en Jésus. Jésus accomplit les prophéties. Premièrement, lui-même est l'expression ultime de la gloire de Dieu. Et je vais vous demander de tourner dans Jean, l'Évangile de Jean, dans le Nouveau Testament. Encore une fois, un passage qu'on connaît bien. Donc, ceux qui avaient étudié l'Ancien Testament à l'époque de Jésus attendaient la consolation d'Israël. Ils attendaient que Dieu envoie son Messie et qu'ils pourraient voir la gloire de Dieu. Voici ce que Jean dit au verset 1, chapitre 1. « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au commencement, on comprend que c'est au commencement du monde. On sait, en lisant la Genèse, que Dieu a créé tout par sa parole. Donc, la parole était avec Dieu, mais en plus, la parole est Dieu. Tout, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et plus loin, au verset 14, Jean 1, 14, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Plus loin, au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, même Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. En voyant Jésus, nous voyons Dieu. » Dans Jean 14, 9, Philippe désire voir Dieu, lui aussi, il désire voir le Père. Il a tout à coup le même désir qu'il avait épris Moïse. Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, c'est un désir normal et sain de vouloir voir Dieu dans toute sa gloire, mais Jésus est venu en nous révélant que ceux qui regardent Jésus, qui l'observent, qui apprennent à le connaître, voient Dieu même. C'est Dieu fait chair qui est venu sur terre dans toute sa gloire. Dans Hébreux 1, verset 3, on dit que le Fils, ce Fils de Dieu, est le rayonnement de sa gloire, le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression même de son être. Aujourd'hui, c'est par la foi que nous pouvons regarder à Jésus. Il n'est pas en chair devant nous, mais il nous a envoyé son Esprit pour que nous croyions et que nous puissions comprendre, apprendre à connaître Jésus comme s'il était en chair et en os avec nous. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour qu'à la lumière de son Évangile, lorsque nous lisons ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et tout son enseignement par la bouche de Paul, de Pierre, de Jacques, de l'auteur de la lettre aux Hébreux, que nous voyons Jésus et que nous voyons Dieu. Dans Jean 11, 40, Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » C'est par la foi que nous pouvons voir la gloire de Dieu et en être éblouis. Et tous les miracles que Jésus a faits, qui nous sont rapportés dans les Évangiles, et le plus grand des miracles, qui est sa propre résurrection, tout ça sont des manifestations puissantes de sa gloire. Et nous savons par la foi que Dieu est au ciel, comme nous l'avons chanté, qu'il est devant le trône, dans la gloire de Dieu, et que nous, en esprit, nous sommes avec lui, assis dans les lieux célestes, dans sa gloire. Dans Actes 7, 55, alors que Étienne était lapidé et sur le point de mourir, il voit Étienne rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel, et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, reflétant la gloire de Dieu. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on apprend à connaître Jésus, on voit les reflets de sa gloire dans tout ce qu'il fait, son action dans l'Église. Le témoignage de Pablo, le témoignage de Clermont glorifie l'action de Jésus. Tout ce qu'il fait. Et un jour, nous pourrons le voir de nos propres yeux. Il va revenir, et encore l'expression qui est utilisée, qui entoure l'événement de son retour, c'est la gloire. Il va revenir d'une manière glorieuse. Tous les yeux le verront, même ceux qui n'ont pas la foi. En Luc 21, 27, c'est Jésus qui dit, « Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, pas pour cacher sa gloire et l'empêcher de nous brûler, mais avec beaucoup de puissance et de gloire. Et tous les yeux vont le voir, tout genou va fléchir. Cette gloire va servir à sauver son peuple, mais en même temps, à juger la terre, juger les peuples rebelles. Et pour ceux qui seront sauvés, Jésus promet même non seulement qu'on va voir Jésus dans son retour glorieux, mais qu'il nous prépare une place auprès de son Père sur une nouvelle terre, rempli de la gloire de Dieu et pour l'éternité. Dans Apocalypse 21, on lit versets 22-23 que sur cette nouvelle terre-là, je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, c'est Jésus. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, la gloire qui nous attend dans les lieux célestes, c'est vraiment la gloire éclatante, celle que Moïse n'a pas pu voir. La gloire de Dieu, vraiment d'être dans la présence de Dieu même, qui éclaire, où on n'a même plus besoin d'astres pour nous éclairer, pour nous réchauffer. Il est la vie lui-même, comme on lisait dans Jean, et la vie éternelle. Mais cette gloire-là qui nous attend sur la nouvelle terre, c'est aussi cette même gloire-là qui fait en sorte que tous ne pourront pas y aller. C'est ce qui va faire en sorte que, malheureusement, beaucoup d'hommes vont aller en enfer, comme l'a mentionné Pablo et Clermont aussi. C'est à cause de cette gloire-là que plusieurs pourront être dans une joie immense, mais que d'autres iront en enfer. Romains 3, 23 dit, « Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. » C'est de cela qu'ils sont privés. D'être dans sa sainte présence, sans être consumé et mourir. De pouvoir voir sa face, d'en être émerveillé et de le louer pour sa grâce éternellement. Ceux qui ont péché sont privés de cela. Mais on comprend que nous avons tous péché. Donc, c'est quoi la solution pour pouvoir y aller? Vous le savez, mais je vous demande de tourner avec moi dans Romains 3, les versets suivants. Romains 3, 23 dit, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais les versets suivants donnent la solution. Après cette mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation. Il n'y en a pas d'autre moyen, c'est le seul moyen. Comme moyen d'expiation, ça veut dire pour payer la dette du péché. Pour ceux qui auraient la foi en son sang. Donc la foi dans le sacrifice de Jésus. Pas le sang des animaux qui serait versé, pas le sang d'un homme, mais le sang du Fils de Dieu. Ceux qui auront la foi en son sang. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, même les péchés du peuple d'Israël. Au temps de sa patience. Et il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste. Il est un Dieu juste, un juge juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, tout en montrant sa grâce. Donc, par le sacrifice de Jésus, Dieu tient parole. Alors, il dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Chaque péché doit être payé. Je ne vais pas faire comme s'il n'y avait pas eu de péché. La faute doit être payée. Mais elle est payée en Jésus. Ceux qui acceptent le seul moyen que Dieu a pourvu pour obtenir sa grâce, qui ont foi en Jésus, qui croient en lui, leurs péchés sont transférés au compte de Jésus. C'est comme si la liste de tous les péchés qui sont à mon dossier et qui me bloquent d'être dans la présence de Dieu, dans sa gloire, sont transférés au compte de Jésus. Et il meurt puni pour mon péché. Et là, la justice de Dieu est satisfaite. Le crime a été payé. Et son amour est satisfait aussi, puisqu'il peut m'accorder le pardon et la vie éternelle. Tous ceux qui ont la foi, Dieu les regarde comme étant saints. Et même, il les regarde maintenant plus comme des êtres mortels, mais comme des êtres qui ont la vie éternelle et qui peuvent être dans sa présence sans mourir. C'est toute la beauté du message de l'Évangile. Donc, de cette manière-là, Dieu pardonne comme il le désire et il punit comme il le doit. Il reste un dernier point, puis il reste quelques minutes. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais il y a un point important qui reste à méditer dans ce passage-là dans Exode. Un sujet qui ajoute à l'aspect glorieux de sa grâce. C'est sa souveraineté. Et Dieu en parle. C'est Dieu qui décide à qui il fait grâce. Il dit, je suis compatissant envers celui en qui je suis compatissant. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et ce jour-là, il déclara à Moïse, je décide de faire miséricorde à ce peuple, à la nuque raide. Dieu reste parfaitement libre de choisir à qui il fait grâce. Il est souverain. C'est lui le créateur. Il nous a créés. Il est le potier. Nous sommes les vases. Je fais grâce à qui je fais grâce, j'ai compassion de qui j'ai compassion. Et c'est souvent répété dans l'Ancien Testament, et à chaque fois, ça signifie, c'est moi qui décide à qui je fais grâce. Même Jonas, qui était fâché que Dieu fasse grâce au peuple de Ninive, Dieu non, il a dit, non, j'ai décidé de leur faire grâce. C'est moi qui est le boss, c'est moi qui est souverain. Et justement, ce passage-là se termine au verset 9 par un rappel que Moïse dit à Dieu. Et lorsque Moïse échange avec Dieu, c'est la pensée même de Dieu qui est déclarée. Israël est un peuple à la nuque raide. Pardonne ton peuple, qu'il reçoive ton héritage, qu'il soit même ton peuple que tu prends pour héritage. Décide de leur faire grâce. C'est la seule façon même d'expliquer les paroles un peu énigmatiques où Dieu dit qu'il bénit jusqu'à la millième génération celui à qui il fait grâce et qu'il punit sur les générations suivantes, celui à qui il ne fait pas grâce, celui qui est coupable. Parce qu'il venait de dire peu de temps avant à Moïse, qui s'était proposé lui-même d'être puni à la place du peuple, Dieu a dit non, il n'y a pas question. c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Dieu, il le dit souvent dans sa parole, il ne punit pas quelqu'un pour le péché de quelqu'un d'autre. Donc, comment il peut imposer une punition sur le fils, sur le petit-fils, sur l'arrière-petit-fils de quelqu'un qui aurait péché? Ça s'explique simplement dans le fait que Dieu est souverain. Et c'est lui qui décide, c'est lui qui a décrété à l'avance qui seront ses serviteurs, qui vont se repentir, se tourner vers lui, et qui vont lui être rebelles. Et Dieu décide dans son plan souverain qu'un être qui lui est vraiment rebelle, qui le rejette, que ses fils vont prendre la même décision. Mais ils seront parfaitement coupables de l'avoir fait. Un exemple de cela, c'est Salomon, qui même dans toute sa sagesse et dans sa gloire, à la fin de ses jours, s'est détourné de Dieu, des commandements de Dieu avec des nombreuses femmes, et il a eu plein d'idoles, et il a conduit le peuple même dans l'idolâtrie. Et Dieu dit, à cause de cela, là, je vais punir le peuple d'Israël, je vais te punir toi aussi, et même ton fils, et je vais avoir une séparation dans le peuple d'Israël. Et ça arrive sous le règne de Roboam, son fils, dont Dieu punit Roboam à cause de la faute de son père. Mais Roboam n'est pas innocent. Premièrement, il est d'abord puni pour sa propre faute. C'est lui qui rejette Dieu, qui ne suit pas le conseil des sages, qui suit le conseil des jeunes, et qui se montre très dur. Et Dieu le punit, mais il déclare en même temps que c'est à cause de la trahison de Salomon. Donc Dieu avait décrété à l'avance que Roboam le trahirait, mais ça n'enlève pas sa responsabilité. On comprend dans la Bible, bien on comprend pas, mais c'est ce que la Bible nous montre, que Dieu a tout décrété, le bien et le mal, mais que l'homme est parfaitement responsable des choix qu'il fait. Et ça apparaît même dans ce passage-là. Mais Dieu montre son désir. Ce qu'il veut, ce n'est pas d'avoir une création, un peuple qui finalement va tous aller en enfer. Son cœur, il le déclare dans Timothée, il veut que tout homme soit sauvé. C'est son désir. Et il veut sauver un grand nombre. Et c'est ce qu'on lisait dans Romains 9, 14 à 23, où Paul même rappelle même ces paroles-là de Dieu. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Parce que ça peut sembler injuste que Dieu ait tout décrété à l'avance. Il dit, est-ce que dirons-nous que Dieu est injuste? Non. Car il a dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je décide. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi, ça ne dépend même pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L'Écriture dit, même à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié sur toute la terre. Même la rébellion de Pharaon servait à la gloire de Dieu. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, OK, mais à ce moment-là, on n'est plus responsable. Qu'a-t-il encore à nous blâmer? Car qui peut résister à sa volonté? Toi donc, plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé, dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Si Dieu veut montrer sa colère et faire connaître sa puissance et qu'il a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, c'est son choix. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde, des vases de grâce, qu'il a d'avance préparé pour la gloire, c'est encore une fois son choix. Puis quand Moïse a compris cela, Dieu déclare qu'il est un Dieu compatissant, mais qui tient le coupable, ne tient pas le coupable pour innocent, et qu'il prend Israël sous son aile, qu'il en fait son peuple, la prunelle de ses yeux. Bien, Moïse, il est écrit, il s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner devant Dieu. Donc, Moïse, comprenant la souveraineté de Dieu, ça ne l'a pas poussé à dire, finalement, Dieu fait ce qu'il veut. Ça l'a poussé à l'adorer, à se prosterner. Ça ajoute à l'aspect de la gloire, de la grâce de Dieu. Si je sais que Dieu m'a choisi, ça me pousse à l'adorer. Qui suis, moi, pour que Dieu m'ait choisi, même avant de créer le monde? C'est incroyable. Je suis une poussière, moi, dans le cosmos, et Dieu a eu un intérêt pour moi. Il m'a connu d'avance. Même, il a voulu avoir une relation intime avec moi, le Dieu de l'univers. Donc, pour des hommes sauvés, le plus grand sujet de louange pour rendre gloire à Dieu pour l'éternité, c'est sa grâce et sa grâce souveraine. Éphésiens 1, 4 à 6 nous dit, « En lui, en Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant ou le plan de bonté. Le dessein bienveillant de sa volonté. Dans quel but? Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est ça le but ultime. Pourquoi il nous a adoptés dans sa famille? Pourquoi il nous prépare une place au ciel où nous pourrons être heureux pour toujours? C'est pour célébrer le fait qu'il nous a épargnés de l'enfer qu'on méritait, qu'il nous a fait grâce. Et on veut le louer pour l'éternité, je suis sûr, pour toutes ses qualités. Mais la première, c'est le fait qu'il est un Dieu d'amour qui nous fait grâce. Et déjà, on peut le louer sur la terre. Suivons l'exemple de Moïse qui a adoré le seul qui était digne de recevoir toute gloire. Comme on l'a chanté tantôt plus tôt aussi, oui, tu es digne. Jésus est digne de recevoir la gloire. Et je conclue par Apocalypse 1, versets 5, 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen.
Ce souhait-là, en se quittant, en se quittant.